Alors, bienvenue dans le cours que les nations se réjouissent. On va aller ensemble dans un petit mot de prière, puis on va vous présenter une famille missionnaire qu'on soutient à l'Église. Père éternel, merci pour cette journée qui commence. Merci pour l'Église qui se rassemble, Seigneur, pour élever des louanges, pour recevoir ta parole, pour prendre soin les uns des autres, pour s'accueillir, pour être là les uns pour les autres, Seigneur. Je demande de bénir cette matinée devant toi. On est là pour célébrer ta gloire, puis pour recevoir de toi ce matin, Seigneur. Alors même à travers ce cours, viens nous parler de la mission, viens nous parler de la réalité missionnaire, viens nous parler, Seigneur, de ce que les gens qui décident de partir pour la mission acceptent de souffrir pour ton nom, Seigneur, et de l'appel qu'il y a pour chacun d'entre nous à travers ça aussi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue dans le cours « Que les nations se réjouissent ». C'est un cours qui est inspiré du livre de John Piper, du même titre. Ce matin, on attaque le chapitre 3, qui est sur la souffrance. Mais juste avant, on veut parler, à chaque semaine, je présente des familles missionnaires qu'on soutient, qu'on supporte, des fois depuis des années. Et puis cette semaine, on parle des Baskunan. Alors, les Baskunan, c'est Baskunan. C'est une famille qu'on soutient depuis très, très longtemps, qui a une histoire. C'est des gens de la famille ici, c'est des gens de l'Église ici, pour nous. Mais juste un petit peu d'histoire, donc rapidement. Antonio et Hélène, ça fait plus de 40 ans qu'ils marchent avec le Seigneur, qu'ils servent le Seigneur. Des photos un petit peu plus fraîches nous montraient Antonio un petit peu plus mature déjà que celle-là. Vous allez voir cet été. Antonio entend rire, c'est terrible. Fait que Antonio est d'origine chilienne. Il a connu le Seigneur là-bas, il est arrivé ici au Québec comme immigrant, et puis il a rencontré Hélène, québécoise, ils se sont mariés, et puis ils sont entrés dans le ministère assez tôt, assez jeune. Ils ont commencé, donc Antonio, chilien, Chibougamau, première église Chibougamau, pasteur là-bas, et puis ensuite de ça, il va aller servir à Granby, il va grandir dans sa formation dans le ministère à Granby. Il va venir ensuite de ça à Longueuil, où il va être pasteur d'une église hispanophone. Donc, une église qui louait ou empruntait des espaces dans notre bâtiment. Dans notre bâtiment à nous, d'accord? Et puis, éventuellement, l'expérience était un peu difficile, dans le sens qu'un certain nombre d'immigrants hispanophones allaient dans cette église-là plus pour trouver un... Disons que ça, la manière qu'on l'a dit lorsqu'on a aidé l'Église qui vivait des moments difficiles, on a dit il semble manquer un peu de conversion dans l'Église. Et donc, un des phénomènes, des fois, qui se passe, ceux qui connaissaient des églises immigrantes, ces églises-là deviennent des fois, je vais le dire comme ça, un peu des ghettos, dans le sens qu'il y a des gens qui arrivent de l'extérieur, ils sont immigrants, ils connaissent personne, ils ont besoin de trouver des gens qu'ils connaissent, juste des fois retomber le dimanche dans ta langue natale, dans ta langue maternelle, ça fait du bien. Mais des fois, ces gens-là sont pas nécessairement véritablement chrétiens. Et donc, la conclusion pour nous, et donc il y a des églises espagnoles, il y a des églises chinoises, il y a des églises, disons, dans d'autres langues, à Montréal, puis sur la rive sud, notre expérience à nous, de concert avec Antonio, c'est qu'on préférait voir les gens s'intégrer. On préférait offrir de la traduction dans l'Église, puis voir les gens s'intégrer dans notre assemblée. Et donc, c'est ça qui s'est passé avec ce projet-là. On l'a éventuellement dissous, on les a assistés. On a dissous ça, puis les gens qui le voulaient bien se sont joints à l'Église. Et puis, Antonio et Hélène ont accepté un appel à ce moment-là pour le champ missionnaire. Donc, ils se retournaient en Amérique latine, cette fois-là à Medellín, puis ils sont allés implanter une église là-bas. Et puis en 2005, je crois, ils sont repartis pour le Chili cette fois-là, pour aller implanter une église au Chili. Je crois que c'est 2005, là, vous avez ça dans vos notes, je ne vais pas vous induire en erreur. Oui, exactement, c'est ça. San Felipe, où ils sont en train de terminer, de compléter l'implantation de l'église. San Felipe, une église plus grande, avait déjà à cœur, donc une église mère, avait déjà à cœur d'aller implanter une église fille à San Felipe. Et donc, depuis le début du projet, ils ont travaillé de concert avec une église là-bas. Bonne théologie, beau modèle missionnaire de l'église. Et donc, eux autres sont allés implanter une église fille avec l'appui de l'église mère, ce qui leur permettait, lorsqu'ils revenaient, je me souviens pas le nom en français, des furloughs, lorsque les missionnaires reviennent pour un séjour de repos puis de députation dans leur pays d'origine, comme lorsqu'eux autres revenaient ici. C'était l'église mère qui s'occupait de l'église de Sainte-Philippe. Et puis, depuis déjà plus de 2 ans, ils avaient un jeune homme qui était en formation puis qui devait prendre la relève. C'est en train de se compléter actuellement. Et donc, lorsqu'ils vont revenir cet été, ils vont avoir terminé leur mandat à Sainte-Philippe avec l'implantation d'une église. Et puis, ce qu'ils ont sur leur cœur, c'est que Dieu leur donne une autre opportunité pour aller implanter à nouveau, encore une fois là-bas. D'accord? Ils sont déjà en train de regarder des possibilités. Fait que vraiment un couple, un beau modèle de consécration au Seigneur. Ceux qui connaissaient les Bascounan, vous connaissez leur joie, la joie de vivre d'Antonio, d'Hélène, puis leur profondeur, une belle famille. On a Claudia qui est au piano régulièrement ici sur l'équipe de louanges. Et puis Pamela est retournée là-bas en Amérique latine, même si elle est née ici, elle est mariée là-bas. Donc, une belle famille, très, très content de les supporter financièrement, puis de les supporter dans la prière. Vous allez pouvoir les voir cet été. Alors, si vous ne les connaissez pas bien, ça va être l'opportunité de faire vraiment connaissance avec eux. C'est bon? On passe maintenant au cours, à notre leçon 6, qui est en fait le chapitre 3 dans le livre, si vous voulez suivre aussi dans le livre. Citation que j'aime répéter à chacune des classes. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Hein? Notre but comme Église, c'est quoi? L'Église universelle, c'est d'adorer Dieu puis d'adorer Dieu pour l'éternité. Mais on vit sur la terre et sur la terre, il y a des milliards de personnes qui ne sont pas des adorateurs de Dieu. Donc, si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. C'est pour ramener l'adoration dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Christ. Et c'est le seul but de la mission. Une fois qu'on aura fini notre séjour sur terre, il n'y en aura plus de mission. Notre mission, ça va juste être d'adorer Dieu puis de célébrer l'Éternel. Retrouver Dieu au cœur de la mission à travers la souffrance. Pourquoi aborder la question de la souffrance dans un livre sur la mission? C'est parce que c'est quelque chose qui vient, qui est totalement présent dans l'expérience des missionnaires, spécialement des missionnaires qui essaient de rejoindre les peuples non atteints. Par exemple, si vous pensez aux situations les plus extrêmes, lorsqu'on va dans des pays musulmans, vraiment très majoritairement musulmans, souvent il y a beaucoup de souffrances qui viennent littéralement, physiquement avec ça, mais à différents degrés aussi, toutes sortes de souffrances, puis on va donner des exemples à travers la leçon. Une première citation de John Piper, « La valeur d'un trésor caché se mesure à l'aune ou à la mesure de ce qu'on est prêt à vendre pour l'acheter. Si l'on est prêt à tout vendre, c'est qu'on estime que le trésor en question a une valeur supérieure à tout le reste. » D'accord? Et puis en fait, il est juste en train de reformuler Matthieu 13, 44. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, achète ce champ. » Les histoires missionnaires sont remplies de souffrances. Ça vient avec, c'est le lot des missionnaires. Et si on pense à l'histoire du Québec à travers les années 50, les années 60, alors qu'on était encore à l'ère du Plessis, c'était très difficile d'apporter l'Évangile au Québec. On était attendu dans un village. Dès que le curé était au courant que, oups, il y avait des protestants qui commençaient à se promener, il faisait du colportage, il allait de porte en porte pour vendre des Bibles, puis offrir aux gens d'étudier la Bible, puis des choses comme ça. Rapidement, le curé, ça faisait le tour de la paroisse, on leur disait, s'ils voulaient acheter un terrain, on s'assurait qu'ils ne puissent pas acheter un terrain pour construire une église. À cette époque-là, les missionnaires ont cumulé, dans cette dizaine d'années-là, à peu près 1 an de prison, si on cumule tout le temps fait en prison par chacun des missionnaires, d'accord? Donc, ça vous donne une idée. C'est pas les souffrances qu'on a vues dans d'autres pays, mais ça a été une période très, très difficile, même à travers ces gens-là. Donc, on peut penser à nos héros de la foi ici, pour nous, dans notre association, les Murray, Héron, Keefe, M. Keefe qui a été un pasteur intérimaire ici à l'Église, M. Beau et Mme Beau qui sont les fondateurs de cette assemblée-ci, par exemple, les Phillips. Donc, on a notre histoire à nous. Puis en fait, si on étudiait l'histoire de l'Évangile au Québec, il y a eu beaucoup plus de souffrances que ça. Si on va plus loin dans le temps, lorsqu'on pense au Chiniki, au Henriette Feller, à Louis Roussy, il y a eu vraiment des persécutions. Et en fait, les persécutions étaient tellement persistantes que souvent, les protestants migraient puis allaient vivre aux États-Unis. D'accord? Donc, c'était quand même la réalité du champ missionnaire ici. Mais on va vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple avec Henry Martin, qui est né le 18 février 1781, juste pour, comprendre, goûter un peu. Si vous avez jamais lu des biographies missionnaires, c'est super inspirant. La biographie de Hudson Taylor est un des livres qui a défini ma compréhension du christianisme dans les deux premières années de ma conversion. D'accord? La longue version, il y a une courte puis une longue, là, mais ça a défini toute ma compréhension de la foi, d'agir par la foi, de se sacrifier pour la mission, d'avoir une passion pour les âmes perdues. C'est très, très inspirant. Donc, Henry Martyn, né le 18 février 1781, en Angleterre, aspire à aller sur le champ missionnaire, va rencontrer William Carey, qu'on appelle des fois le père de la mission moderne. Et donc, lui venait d'une autre tradition protestante, mais William Carey est un baptiste, puis ils vont travailler ensemble lorsqu'il va arriver en Inde, d'accord? Et puis, je vais juste vous lire quelques citations qui nous donnent un petit peu une idée pour voir que ces gens-là étaient des gens très, très humains et semblables à nous. À la page 3, « J'avais bien du mal à me concentrer sur les choses. » Il parle de sa traversée pour les Indes. « À me concentrer sur les choses de Dieu, je me sentais davantage mis à l'épreuve par les désirs du monde qu'au cours des deux années précédentes. Le mal de mer et l'odeur du bateau me donnaient la nausée et la perspective de laisser tout le confort et la communion des saints en Angleterre, de m'en aller vers un pays inconnu et d'être si mal dans mon corps et mon âme, en compagnie d'hommes impies pendant de si longs mois, pesait lourdement sur mon moral. Mon cœur était quasiment sur le point de se déchirer. » Ça, c'est comment il vivait sa traversée pour se rendre aux Indes, d'accord, qui durait plusieurs mois à l'époque. Henry Martyn était en amour avec une jeune fille avant de partir, et puis rendu, puis il n'a pas voulu comme se marier, puis partir, parce qu'il voulait aller voir qu'est-ce que ça allait être la réalité du champ missionnaire, puis est-ce que c'était raisonnable qu'elle puisse venir le rejoindre. Donc, une fois établi là-bas, ce qu'il a désiré, c'est qu'elle vienne le rejoindre, puis qu'il se marie là-bas, d'accord? Et puis, la mère de la jeune fille n'était pas d'accord. J'ai pas les raisons, peut-être qu'elle avait peur pour la sécurité de sa fille, je sais pas c'est quoi. Mais on est à une époque où la vie de la maman comptait pour beaucoup, d'accord? Fait que... Après 15 mois d'insistance pour dire « Viens me rejoindre, viens me rejoindre, viens, on va pouvoir se marier, tout ça. » Voici ce qu'on lit dans son journal, au milieu de la page 3. « Triste journée. Reçu enfin une lettre de Lydia, dans laquelle elle refuse de venir parce qu'elle n'a pas obtenu l'accord de sa mère. La peine et la déception ont tout d'abord semé la confusion dans mon âme. Mais peu à peu, à mesure que mon trouble s'estompait, mes yeux se sont ouverts et ma raison a repris sa fonction. » J'étais forcé de reconnaître avec elle que cela ne serait pas à la gloire de Dieu et que nous ne pourrions pas attendre sa bénédiction si elle désobéissait à sa mère. Alors, il va lui écrire la même journée, d'accord? Donc, la même journée où il a reçu la lettre, il va lui écrire une réponse, puis dans la réponse, on lit ceci. « Bien que nos cœurs soient déchirés par la peine et la déception, je n'écris pas pour t'accuser. » La rectitude de toute ta conduite te met à l'abri de la critique. Hélas, mon cœur se rebelle. Quelle tempête m'agite. J'ignorais que j'avais si peu progressé dans l'acquisition d'un esprit de résignation face à la volonté divine. Fait que c'est une partie de la souffrance, la réalité juste de venir s'installer dans un pays où il n'y a pas vraiment de beaucoup de missionnaires qui sont établis. Les premières années de William Carey ont été terribles. J'ai déjà parlé de lui dans d'autres leçons, mais sa première épouse qui va décéder, je pense qu'il va se marier trois fois, donc deux fois veuf. Sa première épouse va faire des dépressions majeures, elle va être internée, lui est sur le champ missionnaire, une vie super compliquée, perdre beaucoup d'enfants aussi en couche. Mais un autre aspect de ça, bien, c'est cette réalité-là, c'est que toi, tu as fait le choix d'aller là, puis la mère de la jeune fille est vraiment pas prête à voir sa fille partir là, n'a pas les raisons. Puis lui est convaincu de son appel. Fait que s'il est convaincu de son appel, il va continuer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va mourir très, très jeune. Je pense que c'est à l'autre page qu'on a ça. Non, j'allais sauter, mais j'ai une citation qui est écrite quelque temps avant sa mort. « Que me soit donnée la vie ou la mort, puisse le Christ être glorifié en moi. S'il a du travail pour moi, je ne puis mourir. » Alors, c'est un homme qui... est arrivé en Inde, il a traduit le Nouveau Testament en hindouistan, il a attaqué la traduction du Nouveau Testament en persan. Sa traduction n'a pas été bien reçue, Peut-être que c'était pas bien fait, les gens comprenaient mal. Donc, il a décidé à ce moment-là, dans son retour en Inde, de voyager pour aller dans des régions où on parlait persan, puis se familiariser davantage avec la langue, puis retravailler la traduction. Et pendant ces voyages-là, dans un village où il connaissait personne, il va décéder. Puis Dieu vient chercher. Quand le Seigneur a décidé que son travail était terminé, comme il le dit dans son journal, le Seigneur l'a rappelé au ciel. Et on a des centaines d'histoires de missionnaires comme ça. Donc, il est mort à l'âge de 31 ans. Il aurait pu servir encore peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, je ne sais pas quelle était exactement l'espérance de vie à l'époque. Mais c'était la réalité. Puis, il était convaincu que c'était ça son appel, c'était d'aller faire ça pour le royaume de Dieu. Et ces histoires-là inspirent des gens. La vie d'Hudson Taylor a parti tout un mouvement missionnaire à travers les choix que lui a fait d'aller vivre parmi les Chinois, de quitter les quartiers anglais puis en Chine, puis d'aller vraiment vivre parmi les Chinois. Puis il y a des dizaines et des dizaines de missionnaires qui sont partis pour la Chine suite à ses sacrifices à lui. La même chose avec des Henry Martin, des David Brainerd. Et vous pouvez vraiment lire ces biographies-là, c'est vraiment inspirant. Mais encore aujourd'hui, on a des missionnaires, par exemple, qu'on soutient, et puis ça va être écrit dans le bas de leur lettre, « S'il vous plaît, ne pas publier cette lettre sur Internet. » Parce que des fois, ils sont en train de servir dans des territoires où, officiellement, ils ne sont pas là comme chrétiens ou comme missionnaires. Alors, on a un frère qui est là, on peut le mentionner maintenant parce qu'il ne sert plus là-bas, mais Guy Leduc. Guy Leduc a servi longtemps en Turquie. Et il était là à titre de géologue, de chercheur. Donc, il consacrait une partie de son temps à la recherche, mais une grande partie de son temps aussi à s'occuper de l'église, je ne sais pas ce qu'est le terme en français, « underground », d'accord, l'église cachée. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'à partir des pays tout près à proximité, ils vont émettre des émissions de radio chrétienne. Donc, un musulman dans sa maison qui est tout seul pourrait par accident syntoniser ça, se mettre à écouter ça, accepter le Seigneur. Peut-être qu'à un certain moment donné, il va pouvoir poster une lettre pour informer les gens de la radio qui a accepté le Seigneur. Et là, des missionnaires comme Guy Leduc ont une feuille de route. Puis ils s'en vont de village en village parce qu'ils savent qu'il y a deux chrétiens là-bas que personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Le jour où quelqu'un sait, probablement qu'ils meurent, ou ils disparaissent, ou ils sont déshérités. Puis ils s'en vont les fortifier dans leur foi. D'accord? Et ça, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas rare, c'est très commun. David Platt en parle énormément. Celui qui est le directeur de la mission des Southern Baptists, qui est la plus grande mission non charismatique au monde, a fait beaucoup de travail auprès des églises cachées dans le monde. Il est allé visiter des églises comme ça, puis tu arrives dans une maison, tu voyages de nuit, tu arrives là-bas, puis lorsque tu arrives, il y a deux personnes. Puis là, tranquillement, d'heure en heure, dans une toute petite maison, ça monte jusqu'à 30 pasteurs qui sont là, puis ils sont là pour étudier le livre aux Éphésiens, admettons. Fait que David Platt se rend là-bas, puis là, il enseigne le livre aux Éphésiens. Puis en continu, d'accord, parce que ces gens-là ont voyagé, ils sont cachés dans la maison, il n'y a personne qui va sortir. On enseigne le livre aux Éphésiens, puis je me rappelle de l'avoir lu moi-même. Ils terminent après 8 heures d'études. Puis là, ils disent, OK, maintenant, on veut Romains. Fait que là, ils repartent encore pour enseigner parce que c'est leur seule nourriture qu'ils ont. Après ça, les gars vont repartir l'autre nuit, ils s'en retournent chacun dans leur village, puis ils s'en vont refaire leur travail comme église cachée, d'accord? Et c'est la réalité encore aujourd'hui pour des centaines de missionnaires puis des milliers de chrétiens dans le monde. Et ces vies-là sont données aussi pour nous inspirer, nous, puis nous appeler, nous. Donc, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament spécialement, tout appel, un appel de Dieu sur nos vies, c'est un appel à mourir. Bibliquement, dans le Nouveau Testament, lorsque Christ appelle un individu, il appelle à mourir. Peut-être littéralement, mais définitivement spirituellement. Tous les chrétiens sont appelés à la souffrance, cet appel étant implicite dans l'appel du salut, et cela est tout particulièrement vrai pour les missionnaires. Une citation de Dietrich Bonhoeffer, juste vous situer Dietrich Bonhoeffer, je parle parfois de lui, un pasteur protestant qui est allemand, un des rares qui s'est opposé ouvertement au régime nazi et qui a travaillé très, très fort pour continuer à répandre l'Évangile en Allemagne. Il y a eu une conviction particulière aussi à travers la guerre, c'est qu'il fallait assassiner Hitler. Et donc, il a travaillé pendant plusieurs années à mettre sur pied avec d'autres Allemands des complots pour assassiner Hitler. Chacun d'entre eux ont manqué, comme vous le devinez. Puis, il a été arrêté quelques mois avant la fin de la guerre, alors qu'ils étaient en train de réussir à mettre en place un autre complot. et il va mourir quelques jours avant la mort d'Hitler, avant la fin de la guerre, fusillé, tout simplement. Mais c'est un théologien extrêmement influent. Si jamais vous pouvez lire justement celui que je cite en bas, « Vivre en disciple, le prix de la grâce », super édifiant. Il y a aussi l'éthique chrétienne de Dietrich Bonhoeffer. C'est dense, OK? Il faut vous atteler à ça tranquillement, là, comme lecture. Vous prenez ça avec un espresso, une page par jour, là. Mais c'est vraiment, vraiment super édifiant. Fait que Dietrich Bonhoeffer écrit ceci. « La croix n'est pas le terrible aboutissement d'une vie pieuse et heureuse, mais elle est dressée au commencement de la communion avec Christ. Tout appel du Christ conduit à la mort. » Juste un petit peu plus bas, je cite évidemment Marc 8, 34, qui inspire cette parole-là à Dietrich Bonhoeffer. « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ça amène John Piper à dire « Suivre Jésus signifie que chaque fois que l'obéissance l'exige, nous accepterons la trahison, le rejet, les railleries, les coups, la crucifixion et la mort. » Puis c'est pas comme de l'héroïsme, là. On va en parler un peu plus loin. C'est pas du, on n'est pas masochiste. On n'essaie pas de gagner notre ciel à travers nos souffrances. On va parler des martyrs musulmans puis des martyrs chrétiens puis toute la différence qu'il y a là. C'est pas ça l'idée. C'est l'idée que j'ai un Seigneur et mon appel est de renoncer à moi-même pour servir mon Seigneur. Fait que, honnêtement, cette semaine, j'ai beaucoup médité cette idée-là, spécialement la citation de Piper. Là. Suivre Jésus signifie que chaque fois que l'obéissance l'exige, nous accepterons la trahison, le rejet, les railleries, les coups, la crucifixion et la mort. Puis ce que je méditais cette semaine, c'était... parce que le contraste que Piper fait dans ce chapitre-là, c'est qu'il dit on ne parle pas simplement de la souffrance d'une relation difficile ou des choses comme ça. On parle de la vraie souffrance physique qui peut conduire à la mort. Fait que moi, je faisais une réflexion et je me disais, à plus forte raison, moi, dans des relations où je ne me sens pas respecté. Puis là, à un moment donné, j'ai juste comme réalisé, je me suis dit, combien de conflits de couple, combien de conflits dans l'Église, combien de conflits disparaîtraient si un chrétien dit « Oh, on m'en demande un petit peu plus, c'est ma joie de te suivre, Jésus. Oh, je vais souffrir de l'injustice. Parfait, Seigneur, je veux juste être à ta ressemblance. » C'est ça que la Bible m'enseigne. Puis c'est pas comme une surprise, tu sais, c'est pas comme tu t'es converti puis on t'a promis l'évangile de la prospérité, Jésus promet qu'il n'y aura pas de souffrance, tu sais, puis oh, il y a une mauvaise surprise parce qu'en petit caractère, c'était écrit non non, ça se peut que tu souffres, bonhomme. C'était pas ça pantoute là. Il y a pas d'évangile de la prospérité réelle, c'est dans l'éternité lorsqu'on va être avec Christ. Elle est intérieure à travers la souffrance. C'est le sujet du message tout à l'heure, la joie à travers la souffrance. Puis honnêtement, ça m'a fait du bien de réfléchir à ça parce que je me disais OK, ça veut dire que chaque fois que je vais subir une injustice, parce que je connais Christ, là, pas parce que je suis un maso, pas parce que je suis pas capable d'être bien dans ma peau, puis je me fais écraser, puis là, j'ai pas d'estime de moi-même. Puis c'est pas ça la question. Je connais mon identité en Christ. Je sais que je suis sauvé, je sais que j'ai la gloire, je suis un co-héritier avec Christ. Il n'y a personne qui peut m'enlever ma valeur devant Dieu, et tout en Jésus-Christ, ma valeur. Mais chaque fois qu'on va vouloir me faire ça, pourquoi je ne le prends pas avec un sourire? Pourquoi je ne le prends pas avec joie? C'est juste une opportunité de ressembler à Christ. Fait que ceux qui sont mariés, là, ça peut changer votre vie de couple. Mais je dis ça comme ça, pas ça. Marc 8, 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Donc encore une fois, c'est pas... Il faut le comprendre dans le contexte. C'est pas que je jaillis ma vie, puis j'ai juste hâte de mourir. Puis... Non, c'est que je renonce à la couronne de régner sur ma vie, puis je la donne à Christ. Puis tout ce qui est une opportunité pour moi de glorifier Dieu devient pour moi juste une opportunité de manifester sa gloire. Puis si ça veut dire que je vais être désavantagé à travers ça, je sais que mon désavantage est en fait un avantage aux yeux de Dieu. Fait que quand je veux servir, quand j'accepte de souffrir des injustices, quand ces missionnaires-là acceptent de mourir, d'être persécutés, c'est parce qu'ils ne le font pas pour que les hommes les rémunèrent avec l'honneur, avec le respect, avec l'amour. ils le font pour que Dieu les rémunère, dans la gloire. C'est pour ça qu'ils sont en train de le faire. C'est pour ça qu'ils ont la force de faire ça. Est-ce qu'on a besoin de modèles de martyrs? Alors, un mot sur les martyrs, parce que les martyrs dont on entend le plus parler dans les médias, c'est ceux qui se mettent de la TNT autour d'eux, puis qui font exploser des choses, ou qui... c'est comme l'image actuelle des martyrs. On parle de terroristes qui vont tuer des gens. Et sur ça, le Coran puis la Bible sont diamétralement opposés. D'accord? Donc, dans le Coran, il y a véritablement une mort volontaire, violente, d'accord, qui assure des bénéfices spirituels. C'est la manière la plus certaine d'être sauvé que de mourir en tuant les adversaires de Allah. Puis je sais qu'il y a des musulmans qui sont très modérés, qui vont vous dire non, c'est pas ça. Dans le Coran, c'est vraiment l'amour de son prochain. Dans le Coran, il y a l'amour du prochain. Hein? C'est tout à fait vrai. Mais il y a l'autre chose aussi. Et là, il faut comprendre l'historique de la rédaction du Coran. Il y a une période très, très aimable, très, très chrétienne, si je peux dire, dans le Coran, où Mahomet était très, très pacifique, mais plus son armée était en train de se lever, plus il devenait violent. D'accord? Et donc, il y a une vision du martyr musulman. Puis encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tous les musulmans font ça, là, vous comprenez? Je suis en train de dire que c'est là dans le Coran, on ne peut pas le nier. Ces gens-là n'ont pas pris ça dans un autre livre qu'ils ont ajouté au Coran, ils l'ont pris dans le Coran. Et donc, dans le Coran, il y a cette vision de martyr musulman qui t'assure la gloire, qui t'assure le pardon, qui t'assure d'être sauvé. Mais ça va se faire en allant détruire, en allant tuer les adversaires de Allah. Lorsqu'on trouve la notion de martyr dans le christianisme, et écoutez, c'est là en Jésus-Christ, notre chef est mort martyr, littéralement, et c'est là très très tôt dans l'histoire de l'Église, à chaque fois, les martyrs chrétiens ne sont pas appelés à aller enlever des vies, sont appelés à accepter qu'on leur enlève la vie alors qu'ils sont en train d'annoncer l'amour. C'est ça le martyr chrétien. La différence est complète, là, d'accord? Et donc, le martyr chrétien ne va pas aller faire du mal à des gens. Il leur apporte l'Évangile, puis parce qu'il apporte l'Évangile, un message d'amour, de grâce, on va s'en prendre à eux jusqu'à les mettre à mort. Et il y a des martyrs chrétiens constamment, actuellement, encore aujourd'hui. Je vous lis quand même la citation de John Piper au haut de la page 5. « Les chrétiens ne font pas progresser l'Évangile en usant de l'épée. Car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée, dit Jésus dans Matthieu 26. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Mais en réalité, mon royaume n'est pas de ce monde. On ne fait pas progresser l'Évangile en faisant couler le sang d'autrui. Même si celui-ci se mêle au nôtre, on le fait progresser en souffrant pour apporter la vie et non pour entraîner la mort. Au deuxième congrès de Lausanne, qui est un congrès mondial pour l'évangélisation, George Otis a écrit ceci en 1989. « L'échec de notre développement dans les pays musulmans serait-il dû à l'absence de martyrs? Une église clandestine peut-elle devenir plus forte? Une jeune église aurait-elle besoin de modèles de martyrs? » Je vais vous parler dans quelques semaines d'un livre puis d'une application que vous pouvez mettre sur vos appareils mobiles ou vous pouvez aller sur le site web de ce service-là. Et puis, ça nous invite à prier sur les peuples non atteints dans le monde, en nous donnant vraiment où est-ce qu'on en est avec l'Évangile, c'est quoi le pourcentage de chrétiens chez ce peuple-là, et puis avec des requêtes de prière. Puis souvent, les requêtes de prière sont que les chrétiens acceptent le prix à payer pour faire connaître l'Évangile, puis que Dieu convainque des hommes, des femmes d'aller comme missionnaires dans ces régions-là, en sachant qu'elles vont peut-être avoir le temps d'annoncer l'Évangile, peut-être pas, peut-être qu'elles vont voir une conversion, peut-être 1000, mais peut-être pas du tout avant de mourir. Et donc, le martyr chrétien, est-ce qu'il est nécessaire? Puis, parce que les persécutions, puis les chrétiens qui meurent au nom de la foi dans le monde, c'est constant, vous avez des chiffres vraiment effarants. David Barrett a estimé en 2002, à près de 164 000 chrétiens qui allaient mourir cette année-là à cause du christianisme, à cause de leur foi. Et puis les projections, parce qu'on a des projections de croissance des populations mondiales, d'accord? C'est prévu qu'en 2050 environ, on va franchir le nombre de musulmans va basculer sur la terre par rapport au nombre de chrétiens. Là, quand je dis chrétiens, vous comprenez que ça comprend tous les chrétiens nominaux. Plus ou moins chrétiens, je ne sais pas, mais à partir du moment où ils renoncent même à être des chrétiens nominaux, mais ça ouvre la voie à autre chose. Et donc, en 2050, on prévoit que les proportions vont basculer. Et logiquement, lorsqu'on regarde l'histoire de l'islam à travers les siècles, lorsque l'islam réussit à s'installer pour de vrai dans un pays, les plus radicaux parmi les musulmans, je ne suis pas en train de dire que tous les musulmans sont radicaux, la majorité d'entre eux, la presque totalité d'entre eux qui viennent ici, c'est pour fuir un pays où ils étaient malheureux sous un islam radical, d'accord? Mais ces gens-là arrivent, évidemment, ils sont pacifiques, ils ont fui la violence, ils ont fui ces choses-là. Puis lorsque le nombre devient suffisant, des individus parmi eux qui sont radicaux, qui veulent vivre le Coran littéralement, commencent à vouloir installer la charia à ce moment-là. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe dans les pays. C'est ce qui s'est passé du temps de Mahomet. Comme je vous dis, la ligne directrice du Coran s'en va vers la violence à partir du moment où il n'y avait plus levé vraiment une armée. Fait qu'en 2050, on prévoit, juste parce que les musulmans font beaucoup plus d'enfants que les chrétiens et que les non-chrétiens, évidemment, que leur nombre va dépasser celui des chrétiens dans le monde. Et donc, à cause de ça, on est capable de faire des projections. Fait que 2025, on prévoit que 210 000 chrétiens devraient mourir à cause de la foi. Ça va-tu être ça? Ça va-tu être pire? Je ne sais pas. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et pour apporter l'Évangile vers les peuples non atteints, il va falloir accepter pour nous ce martyr-là. Pas choisir le martyr de la bombe, mais choisir le martyr de la croix pour pouvoir annoncer l'Évangile. Puis Dieu peut être en train d'appeler des gens ici à partir sur le champ missionnaire. Si on donne le cours, c'est pour qu'on prie pour nos missionnaires, mais c'est pour que Dieu appelle aussi. Dieu va peut-être appeler nos enfants à partir sur le champ missionnaire. J'ai été crucifié avec Christ. Alors, on retrouve l'idée dans la théologie de l'apôtre Paul très, très présente du fait de mourir à soi-même. D'accord? Le vieil homme, je renonce à mon vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est l'homme nouveau qui vient en moi par l'Esprit Saint. J'ai un cœur nouveau. Je veux marcher avec Dieu maintenant. Mais toute cette image-là où nous, on a tendance à nous arrêter parce qu'on vit dans un pays où les persécutions sont presque nulles, d'accord? Il y a des formes de persécution qui existent déjà. On voit la culture qui est vraiment en train de changer, mais à la lumière de ce que je viens de vous parler, je pense que vous allez être d'accord pour dire que c'est presque nul. Et donc, où est-ce qu'on va dans les Écritures lorsqu'on pense à mourir à soi-même? Ben moi, c'est rare lorsque je lis les Écritures que je pense à mourir physiquement, vous comprenez? Je m'en vais vers ça. OK, c'est mon vieil homme est mort, je dois renoncer. Mais toute cette théologie-là, c'est pas pour dire que ça veut pas dire qu'on va souffrir physiquement, d'accord? C'est simplement la réalité intérieure, dans mon cœur, dans mon âme, qui fait que le jour où je me retrouve sur le champ missionnaire, avec un gun sur la tempe, puis qu'on me dit « renie ta foi ou meurs », je décide de ne pas renier ma foi, puis j'accepte de mourir. C'est parce que j'ai vécu la réalité que mon vieil homme a été crucifié avec Christ, l'homme nouveau vit en moi, puis si ça veut dire que ma vieille peau, il faut qu'elle meure, ben elle va mourir, puis ça finit là. Et donc, si, lorsque j'arrive là pour faire une application peut-être plus pratique au day-to-day pour nous, ben si dans ma vie familiale, si au travail, si dans les relations, je vis des injustices, puis que ça me coûte quelque chose, je vis une injustice à la job, quelqu'un d'autre a une promotion à ma place, puis c'est moi qui devais l'avoir, c'est vraiment une injustice. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller plaider pour que la justice se fasse, mais dans mon cœur comme chrétien, si c'est la souffrance que Dieu permet souverainement dans ma vie, j'ai tout ce qu'il faut en Jésus-Christ pour accepter cette souffrance-là, avec joie. C'est là, c'est disponible. Si c'est possible pour ces missionnaires-là, ou comme Étienne, de mourir dans la gloire, puis dans la joie. Comme martyr chrétien. Et donc, ce que Jésus dit, c'est « Ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. » Le Nouveau Testament, au bas de la page 5, est affirmatif. Les chrétiens sont appelés à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à subir des persécutions, que ce soit en demeurant chez nous ou en partant sur le champ missionnaire. Nous sommes appelés à marcher dans les traces de Jésus-Christ. Et une église, un enseignant qui n'enseigne pas ces choses-là, enseigne un autre évangile. Une église qui enseigne un évangile où on dit « Non, 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 convertis-toi, tu vas voir, ça va être la prospérité, ça va, Dieu va te bénir, puis si tu vis des épreuves, c'est peut-être parce que tu manques de foi, puis Peut-être, va chercher la face de Dieu. Ça se peut très bien que c'est parce que tu as la foi que Dieu t'a donné cette épreuve-là, parce que tu as la foi pour la supporter, puis il n'y a aucune épreuve qui est au-delà de tes forces. Fait que c'est complètement faux, cette vision-là de l'Évangile de la prospérité. Et donc, une église qui ne prépare pas les chrétiens à souffrir, c'est une église qui n'enseigne pas entièrement l'Évangile ou qui enseigne un autre Évangile. Parce que c'est pas écrit en petit caractère, c'est écrit en super gros caractère, signé avec le sang de Christ, « Suivez-moi, vous allez souffrir. » Mais notre perspective à nous, c'est la gloire. C'est la gloire éternelle, c'est la puissance de l'Évangile dans mon cœur, c'est la plénitude de l'Esprit dans mon cœur à travers la souffrance. Au haut de la page 6, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Puis il a dit, « Je ne vous envoie pas parmi les brebis, je vous envoie parmi les loups. » Je vous envoie pour annoncer l'Évangile, mais vous allez être persécutés parce qu'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Et donc, lorsque j'arrive au travail, puis je ne suis pas respecté dans ma foi, puis je commence à parler du Seigneur, puis on se moque de moi, il n'y a pas de surprise, là. Comme je vous dis, c'était clair dans le contrat. C'est super clair. Puis le Seigneur va aller plus loin, il va dire, réjouissez-vous de ça. Réjouissez-vous de ça, c'est parce que vous êtes chrétien que ça se produit. Peut-être que c'est parce que tu es taouin, puis tu manques de douceur, puis tu sais, de sagesse, puis ton témoignage n'est pas bon, puis tu es en train de nuire au témoignage de Christ parce que tu es un mauvais employé, en plus qui évangélise tout le temps. Ben, le Seigneur peut même conduire des âmes à Christ à travers ça, c'est clair. Mais bon, fait que peut-être que tes persécutions ne sont pas des persécutions, c'est peut-être des châtiments de la part de Dieu, mais tu peux aussi juste être persécuté parce que tu ouvres la bouche pour Christ. La souffrance de Jésus nous dispense-t-elle de souffrir? Alors, ce qu'il y a un petit peu dans l'idée de l'Évangile de la prospérité, c'est cette idée que c'est Christ qui a souffert pour nous. Donc, nous, on n'est pas appelés à souffrir maintenant. Mais c'est faux. C'est faux. Quand on pense à Jésus-Christ, on pense juste au chrétien idéal. Fait que quand j'ai des gens qui me disent « Non, mais ça, c'est Jésus. » Oui, mais Jésus, il a promis que tu allais faire des choses plus grandes que lui. Fait qu'on a un problème, là. Non, mais ça, c'est Jésus, lui, il a le Saint-Esprit. Ah, parce que toi, t'as quoi? T'as le Saint-Esprit. Donc, Jésus, c'est simplement le chrétien mature. Il est plus que ça. C'est Dieu le Fils, on l'adore, c'est notre Seigneur. Mais dans sa manière de vivre, dans ce qu'il représente, dans sa discipline, dans sa manière de marcher parmi les hommes, tout ce qu'on voit en lui, c'est un chrétien mature. C'est le modèle parfait pour les chrétiens et les chrétiennes qui veulent devenir matures. On veut être comme Jésus. Littéralement, c'est ça qu'on veut. Et c'est la mission de l'Esprit-Saint de former le caractère de Christ en nous. C'est ça l'œuvre que l'Esprit-Saint fait. Il forme Christ en nous. Et donc, on n'est pas, exempt de souffrance parce que Christ aurait souffert. Au contraire, on est appelé aussi à souffrir. John Piper écrit au milieu de la page 6, « L'appel à souffrir avec le Christ n'est pas un appel à porter nos péchés comme il l'a fait, mais à aimer du même amour. » La mort du Christ, à cause de mon péché d'égoïsme, a pour but, non de m'aider à échapper à la souffrance de l'amour, mais de la permettre, de la rendre possible, parce que j'ai cet homme nouveau-là en moi. Puisqu'il a pris sur lui ma culpabilité et mon châtiment, me réconciliant ainsi avec Dieu, mon Père, je ne suis plus condamné à m'accrocher au confort terrestre afin d'être satisfait. Je suis libre de tout lâcher afin de faire connaître la valeur suprême de Dieu. À la personne qui ne connaît pas Dieu, okay, la personne qui n'a aucune assurance pour son éternité, dans un certain sens, la chose la plus conséquente, pas la plus sage, la chose la plus sage, ce serait de commencer à craindre Dieu, mais la chose la plus conséquente, c'est de se bâtir un royaume sur la terre, de jouir de la vie à 100%, puis profites-en, mon bonhomme, ma bonne femme, parce qu'après, c'est le jugement éternel pour toi. C'est conséquent. It makes sense. C'est insensé aussi. D'accord? On devrait chercher à craindre Dieu puis à s'assurer de l'éternité. Mais dans notre cas à nous, je sais où je m'en vais. Je meurs tout de suite, là. Je sais où je m'en vais. J'ai pas besoin de m'accrocher aux choses de ce monde. J'ai pas besoin de les posséder, de m'y tenir. Elles n'ont pas un sens réel pour moi. C'est des outils qui rendent mon pèlerinage sur terre un peu plus confortable. Mais c'est juste ça. C'est juste que mon siège dans l'avion est peut-être un peu plus confortable que si j'étais assis par terre. Mais je suis dans un avion, puis je m'en vais au ciel. Et c'est juste ça, c'est juste à ça que ça sert. Et donc, j'ai la liberté de céder ma place dans l'avion. Parce que quand l'avion va atterrir, moi, je suis au ciel. J'ai la liberté d'accepter de souffrir parce que je connais ma destinée, je sais où je m'en vais. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça pour définir mon identité. J'ai pas besoin de ça pour trouver ma joie. J'ai pas besoin de ça pour définir ma valeur. J'ai pas besoin de ça pour l'éternité. Mon éternité est dans la gloire avec Dieu. Et Christ va nous encourager à s'armer de cette pensée-là, à porter ça dans notre cœur, à accepter ces souffrances-là. Je dois avancer un petit peu plus vite à la page 7. Ça va vous provoquer un peu, puis on va terminer sur cette pensée-là. Je vais juste les survoler. On va parler tout à l'heure pendant le message. Là, c'est comme si vous avez une belle introduction pour l'exposer tantôt. On va parler de la souffrance. Et puis, cette semaine, pas plus tard que cette semaine, j'avais des personnes qui sont en cheminement. On étudie l'Évangile ensemble. Puis, on parlait de la capacité de Jésus de faire des miracles incroyables, tout ça. Puis, puis une d'entre elles m'arrête lorsque j'étais en train de partager ça, puis elle me dit, « Ma sœur est morte il y a 7 ans. Ma sœur est décédée il y a 7 ans. Elle ne pouvait pas faire un miracle, puis la sauver. » Là, c'est parti, là, les témoignages ont commencé à sortir. Puis la grande question qu'ils mettaient sur la table, c'est « Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il y a le mal? » C'est la question du mal dans le monde, d'accord? Qui est une question super importante. Puis le cri qui vient dans notre cœur, naturellement, lorsqu'il y a de la souffrance, c'est « Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu permets ça? Est-ce que ça vient de toi, ça? » D'accord? La question d'un chrétien, c'est « Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ça, Seigneur? » Parce que nous, on ne se demande pas si Dieu le permet puis pourquoi il le permettrait. Je crois dans un Dieu souverain. Donc, je sais que Dieu l'a permis. Je sais que c'est selon ses desseins. Puis je sais qu'il n'y a absolument rien qui peut se produire dans ma vie qui va nuire à ma foi, qui va m'éloigner de Dieu. J'ai cette conviction profonde-là dans mon cœur. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers la souffrance? Ça se peut qu'il veuille me montrer quelque chose de laquelle je dois me repentir. Il y a beaucoup de souffrances dans nos vies qui sont juste les conséquences de notre bêtise et nos péchés. Il veut juste me montrer, « Bien, repends-toi, ça va faire moins mal. » Enlève-le, le doigt sur le rond, là, ça va arrêter de chauffer un jour. T'sais. Bon, il y en a une partie que c'est ça, mais il y a une autre partie que c'est juste former Christ en nous. Et donc là, on a des raisons ici. 6 raisons pour lesquelles Dieu destine ses serviteurs à la souffrance. La souffrance rend plus profonde la foi et la sainteté. Dieu forme le caractère de Christ en nous à travers la souffrance. La souffrance augmente la capacité de notre couple. Il y a vraiment une idée dans les Écritures que souffrir avec Christ nous mérite des gloires. Alors, c'est clair qu'on va tous être sauvés, mais il y a quelque chose de plus glorieux qui est réservé à ceux qui sont appelés à souffrir. Et donc, une citation, un des objectifs de Dieu concernant la souffrance des saints est donc d'augmenter leur capacité à faire l'expérience de sa gloire, aussi bien ici-bas que dans le siècle à venir. Vous pourrez lire Matthieu 5, allez lire 2 Corinthiens 4. La souffrance est le prix à payer pour donner à d'autres de l'assurance. Souvent, ça va revenir dans les enseignements de Paul. Ses souffrances à lui sont là pour fortifier les autres dans la foi. J'ai commencé le cours en vous racontant l'histoire d'Henry Martin, en vous parlant des missionnaires qui ont souffert. Leurs souffrances à eux servent à former Christ en eux, mais servent aussi à fortifier notre foi en nous. Et donc, une des grâces, c'est d'accompagner des chrétiens qui souffrent. De le faire comme il faut, pas comme les amis de Job, de le faire avec maturité, de le faire avec respect, de le faire avec soutien, mais accompagner des chrétiens qui souffrent, c'est vraiment une grâce pour la foi de celui qui accompagne. Parce que Dieu nous fortifie à travers ça. Quatre, la souffrance supplée à ce qui manque aux afflictions de Christ. Je vais juste lire celui-là rapidement, d'accord? Vous avez déjà lu ça? Puis là, vous dites que c'est ça, il n'en manquait pas. Christ a tout accompli, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on ajoute à ça? Bien, l'idée, c'est que on est des messagers de l'Évangile, on est des messagers de Dieu, puis Dieu se sert de notre souffrance à nous pour faire avancer l'Évangile. Dieu se sert de notre souffrance pour interpeller des non-chrétiens. Tu es au travail, je pense, là, tout à l'heure, je vais parler d'elle un peu, mais Mme Grenier, je vais la visiter, elle est à l'hôpital. Moi, lorsque je vais visiter des chrétiens qui sont à quelques semaines de mourir, je vous le dis, là, ça fait plus que 20, ça fait 20 ans là, que je suis dans le ministère. 95 % du temps, le témoignage est absolument glorieux. Dieu se sert des derniers jours, des derniers mois de la vie chrétienne d'un de ses enfants pour répandre l'Évangile autour de lui. 95 % du temps, c'est glorieux. Ça peut être extrêmement souffrant, d'accord? Souffrance physique. Il va y avoir des moments d'angoisse, des moments de doute, des moments où il faut les accompagner dans la foi. Puis, ah, c'est vrai, ok, je me confie en Dieu. Puis, c'est, des fois, la souffrance est tellement aiguë que c'est comme, Seigneur, viens me chercher. Mais 95 % de ce que moi j'ai vu, et Dieu sait, j'ai accompagné quand même pas mal de monde vers la mort. Là. Pas mal de services funéraires. 95 % du temps, c'est extrêmement glorieux et édifiant à voir. Et dans ce sens-là, nos souffrances viennent multiplier le témoignage de Christ. Donc, c'est pas pour le salut de nos âmes. Christ a tout accompli ça. Mais c'est pour faire prospérer ou faire avancer l'Évangile, pas l'Évangile de la prospérité. Donc, 5, ça va exactement dans le sens de ce que je viens de dire. La souffrance a pour effet l'exécution du mandat missionnaire. Ça va être pour le témoignage, mais dans le livre des Actes, on voit carrément, n'est-ce pas? Dans le livre des Actes, on voit Étienne, le jour de la persécution d'Étienne, la persécution a commencé ailleurs, puis Dieu s'est servi de ça pour répandre les chrétiens qui restaient à Jérusalem. Puis là, les chrétiens qui se répandent, à un moment donné, vont rencontrer des gens à Antioche, puis à Antioche, ils vont commencer à annoncer l'Évangile, puis l'Évangile va se répandre à travers tout l'Empire romain, d'accord? Et donc, Dieu, souverainement, va se servir de la souffrance de ses enfants, même pour servir la cause missionnaire. Et comme je vous le dis, les martyrs chrétiens, je pense que c'est Tertullien, je l'ai déjà cité à plusieurs reprises, qui a dit, il parlait des persécutions sous l'Empire romain, les chrétiens étaient martyrisés dans les arènes, et puis il y avait cette phrase qui disait, « Chaque fois que vous nous tuez, notre sang qui tombe en terre est une semence qui fait croître, qui fait naître des chrétiens. » Parce que les gens allaient dans les arènes pour les regarder mourir. Il y avait des gens qui se convertissaient après ça, vous comprenez? Le film était vraiment bon. Il finissait avec le désir d'avoir cette foi-là. D'accord? Puis c'est la réalité. Alors, il y a plein d'impies qui se réjouissaient de voir des chrétiens mourir, mais ceux que le Père a donnés au Fils qui voyaient ces choses-là étaient interpellés. Certains d'entre eux, mais à ce moment-là, c'était le facteur qui les conduisait à la foi. La souffrance rend incontestable la suprématie de Christ. La souffrance des missionnaires est utilisée par Dieu pour révéler la puissance et la nature pleinement suffisante de Christ. Lorsque Paul souffrait, qu'est-ce que Christ lui a dit? « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et ça a amené Paul à révolutionner complètement sa vision de cette épreuve-là dans sa vie, puis à se dire « Mais je vais me glorifier de ma souffrance, je vais me glorifier de mes faiblesses, parce que dans ces moments-là, je suis obligé de dépendre complètement de Christ. Puis quand les choses deviennent belles, puis glorieuses, puis il y a des gens qui viennent à Christ, puis il y a des hommes qui se convertissent, je suis obligé de rendre toute la gloire à Dieu, parce que moi, j'étais tellement faible dans ces moments-là. Tellement faible dans ces moments-là. Et vous avez eu des occasions où vous avez témoigné, puis vous dites, je suis arrivé là, j'étais tellement pas dedans, j'étais tellement pas rempli de l'esprit, puis là, à un moment donné, j'étais pris avec mon attitude, puis ça allait pas bien, puis Dieu a placé une occasion, vous êtes mis à annoncer l'Évangile, puis vous dites, waouh, c'est incroyable, Seigneur, de te servir d'un serviteur aussi misérable que moi pour apporter un message aussi glorieux, n'est-ce pas? Aussi glorieux. Alors, à la page 10, pour terminer, l'acceptation joyeuse de la perte et de la souffrance en échange du royaume de Dieu manifeste plus clairement au monde la valeur suprême de Dieu que toute l'adoration et la prière. On a parlé jusqu'à présent de l'adoration, on a parlé de la prière. La conviction de John Piper, qui a toujours eu une passion très très grande pour la mission, il dit « L'acceptation joyeuse de la perte et de la souffrance en échange du royaume de Dieu manifeste plus clairement au monde la valeur suprême de Dieu que toute l'adoration et la prière. J'aurais beau être le gars qui lève les mains les plus hautes le dimanche matin, puis alléluia, puis je suis toujours en train d'encourager tout le monde, j'ai toujours un petit verset sur la boue de la langue, puis tu sais, je participe à des réunions de prière, puis tout ça. Quand Dieu va m'appeler à souffrir, mon attitude à travers ça, à continuer à célébrer Dieu puis à glorifier Dieu, va être un témoignage plus puissant, selon John Piper, que toutes les alléluia que j'aurais dit avant, puis tous les moments où j'étais le plus spirituel des cinq qui étaient à genoux dans la prière. Matthieu 5, 11 et 12, on termine avec ça. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » C'est bon? Food for thought. Des petites affaires à réfléchir cette semaine. La semaine prochaine, on n'a pas de cours. On a une pause parce que je vais être à l'extérieur. On va être à Indianapolis, probablement à l'église d'Alexandre et Cynthia, en visite là-bas juste avant une conférence avec Esther. Donc, il n'y a pas de classe dimanche prochain. On se retrouve dans 2 semaines. On va dire un mot de prière. Père éternel, merci pour tes grâces. Merci pour cette grâce particulière de la souffrance, Seigneur. C'est pas parce qu'on est masochiste qu'on appelle ça une grâce. C'est parce qu'on croit que tu es souverain, tout-puissant, que tu nous aimes, tu as donné ton Fils, que tu es notre bon Père. Et donc, que si tu mets une coupe de souffrance devant nous, si tu mets une table, tu dresses une table qui est remplie de souffrance devant nous, Seigneur, nous ne voulons pas douter de ta souveraineté, nous ne voulons pas douter de ta bonté, nous ne voulons pas douter de ton amour, Seigneur. Alors, apprends-nous à accepter cet appel-là. Et apprends-nous à prier, Seigneur, pour les hommes et les femmes que tu appelles sur le champ missionnaire, dans des secteurs, des régions où ils vont quitter leur famille, ils vont souffrir de l'éloignement, souffrir de l'isolement, souffrir de la solitude, des fois souffrir de précarité financière, parfois souffrir physiquement, voire même être persécutés, Seigneur, et mourir pour la foi. Viens à leur secours, Seigneur, fortifie-les, garde devant les yeux le Sauveur glorieux qui a accepté de souffrir ça pour nous, afin que nous puissions entrer dans la gloire avec lui. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.